Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour a su marquer les esprits à la force de son bras gauche. Ancien numéro 5 mondial, vainqueur de la Coupe Davis 91 dans une grande aventure entre amis, ce modèle de persévérance remporte 19 tournois, dont 9 en simple. C'est un homme passionné qui, avec son fameux franc-parler, nous passionne. Bonjour Henri Lecomte.
Bonjour.
Henri, je dis franc-parler parce que c'est vrai.
Ah
enfin,
bon
moi j'ai un souvenir, que sur les cours de tennis, Henri Lecomte, c'était quelqu'un qui s'exprimait. En tout cas, qui manifestait son humeur, son avis, parfois même assez drôle.
Oui, parce que j'avais envie, et puis c'est ma nature, c'est mon caractère de pouvoir communiquer avec les gens, de pouvoir partager les bons moments, les mauvais moments. J'ai plein d'anecdotes, notamment un moment quand je suis à Roland-Garros, et puis tout le monde est évidemment dans les loges, il n'y a personne, ils sont en train de manger. Et puis toi, tu es en train de te galérer sur le central, tu es mené de 7-0 ou de 7-1,
t'en peux plus,
il fait chaud, et là... Et tout d'un coup, t'as les gens, ils arrivent, je dis, ça va, vous avez bien bouffé, c'est super. Hein, moi, je suis en train de galérer, là, bande de cons, là. Aidez-moi un petit peu, là. Je me souviens encore, il y avait Jean-Paul Belmondo qui était là, il avait sa petite loge avec...
C'était un super fidèle, hein, il était là tout
fidèle,
le temps.
Et puis, il avait la tenue, il avait le blouson, les lunettes de soleil, comme Peur sur la ville. J'ai l'impression qu'il venait de tourner le film, et qu'il est là, qui me disait, allez, Henri, vas-y. Puis à un moment, je dis, Jean-Paul, aide-moi, fais quelque chose. Puis voilà. Mais j'étais comme ça parce que, pour moi, ça a toujours été, c'était un peu comme comme une pièce de théâtre. Ouais. Tu sais, tu partages avec les gens.
C'est ça.
Et moi, j'adorais ça, j'adorais communiquer. Je voulais qu'on m'aime, Puis j'étais plutôt une personne plus extravertie, un peu comme Yannick aussi, parce que Yannick, il parlait beaucoup. Et c'était notre façon, c'est d'enlever un petit peu la pression par moment.
Vous avez fait un tandem,
bien sûr.
Un duo, un tandem, on appelle ça comme on veut, dans les années 80, 90. Yannick Noah, Henri Lecomte, c'était pratiquement inséparable. Je ne sais pas si c'est inséparable dans la notoriété, sur le terrain, dans l'image de ce tennis français qui était quand même super éclatant à ce moment-là, quoi.
Mais on avait besoin de l'un et de l'autre pour progresser. On avait besoin de... Je pense que mutuellement, c'est énormément apporté parce qu'il y avait une rivalité qui était forte. Moi, Yannick, je voulais tuer le maître. C'était mon grand frère quand j'ai commencé.
Très fort, Yannick.
Il avait une personnalité, un physique, une emprise. Quand il rentre dans une pièce, c'est Yann.
Oui.
Donc moi, j'étais derrière, le petit peu comme au départ, le petit poisson, tu sais, le requin. Puis tu sais, le petit poisson qui est juste en dessous,
qui le suit.
Et qui dit, il y a un truc qui tombe, je vais le bouffer, toi. Donc j'étais un peu comme ça. Et puis après, je me suis affirmé aussi dans ma personnalité, ce qui était important aussi, de ne pas être mangé par le gros requin. Le moment le plus fort, c'est quand, après, ça a été une vraie compétition, mais qui était à la fois dure, mais saine. Parce que l'amitié, il y avait de l'amour.
Ouais, c'était de l'émulation plutôt.
Ouais, bien sûr, quand on s'est rencontré à Roland-Garros, ce fameux match où il y avait 50% de compte, 50% de Noah, ça a été fort. Et puis c'était un gros match, parce que moi je gagne en 5-7. Mais quand Yannick il me le dit, à un moment où je suis content, j'avais perdu contre un pote. Non, il n'est pas content.
Non. On n'est jamais content de perdre.
Non, puis même, et souvent quand on a quelqu'un qu'on connaît bien, on dit, c'est pas grave sur le moment, mais après on se dit, quand même, là, j'ai lâché prise. Et puis après, c'était une rivalité qui a été hyper positive.
Parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais le tennis, c'est probablement un des sports qui demande le plus de ressources mentales. Tenir sur le court, quand tu dis lâcher prise, comment j'ai pu lâcher ? On se rend compte que vraiment, ça tient à rien de perdre un point, de le gagner, d'aller au bout. On parle aussi de la peur de gagner sur le terrain, sur le court.
C'est quand même un sport le plus dur. T'es seul, t'as 15 000 personnes, t'as un adversaire, tu dois gérer tes émotions. Il y a le court, il y a aussi le temps il fait beau, il fait pas beau, le vent. Et donc tout ça est à gérer, tout avec une préparation aussi physique importante. La préparation mentale, on l'avait pas. Hein.
Et
encore aujourd'hui, ça met un peu de temps. Alors on parle beaucoup du mental, mais je pense que moi, ce que je fais de plus en plus, c'est ce qu'on parle aussi avec Maya, c'est ce qui est très important, c'est de pouvoir gérer ses émotions. Par exemple, en finale de Roland-Garros, je n'ai pas su les gérer. J'étais trop absorbé par le match, le résultat, et de se dire...
L'enjeu, le symbole.
Ouais. Ouais. Les gens, la pression. Quand tu arrives sur le central, t'as la patrouille de France, t'as Michel Sardou qui chante, et là, tu te rends compte que, ah merde, c'est pas le même match, là. Et puis, tu joues... En plus, c'était pas un match facile, parce que joue Mats Wilander, qui était numéro un mondial de l'époque, donc... tout le monde attend que tu fasses la même chose que Yannick. Et puis, la pression, t'as fait ton match 15 fois avant, t'as gagné, t'as perdu... Et puis après, tu n'as pas su gérer l'après. Mmh. Donc voilà, après c'est une cascade, ça va très très vite. On ne se rend pas compte parce que ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est les émotions. Et surtout, quand tu as une victoire, c'est très éphémère. Ça va vite.
Ouais.
C'est comme un bouchon de champagne. Paum, c'est parti. Et puis après, c'est fini.
On le dit dans la défaite.
Ça
passe vite. C'est-à-dire qu'on passe vite à autre chose. Mais dans la victoire aussi, on passe vite.
Victoire, c'est pire. Tu sais, la victoire, c'est pire parce que c'est euphorique, c'est bien. Mais la défaite, oui, on est déçu, mais après, on y repense encore.
Et puis après,
on travaille dessus. Bien sûr, tu apprends plus d'une défaite que d'une victoire. Une victoire, oui, c'est fabuleux. Comment t'as fait? En fin de compte, t'as oublié. Après, quand tu es dans cette mouvance, quand tu es dans cette énergie-là, tu oublies le travail que t'as fait derrière. Tu dis, c'est normal, je l'ai fait.
Ouais.
D'accord? Mais après, faut pouvoir... C'est ça qui est dur. C'est pouvoir rééditer.
Et
tous les jours, se remettre au travail, faire oublier ce que tu as pu faire auparavant, travailler deux fois plus... modifier certaines choses, c'est ce qu'ont fait les trois fantastiques pendant 16-18 ans. Parce qu'on a oublié, là.
Ça paraît presque surréaliste.
Non, mais c'est surréaliste, on n'aura plus ça.
Ouais.
T'as trois personnes en 16 ou 18 ans qui ont fait, à eux trois, plus de 60 grands chelems, 63, 64.
Ouais.
Non, mais déjà, quand on regardait Sampras, on disait 14, c'était incroyable.
Ouais. Mais là,
on en a eu trois.
On a eu trois, à plus de 20.
Plus de 20. Donc, t'imagines? Et en plus, il y en a eu deux autres. Il y a eu Murray qui en a fait trois. T'as eu Stan Wawrinka qui en a fait trois.
Ah oui, c'est vrai.
T'as eu aussi. Comment il s'appelle? Marin Cilic qui a gagné l'US.
Ouais.
Ouais, mais les gens, ils se rendent pas compte. C'est-à-dire que... Mais c'est pour ça que c'est compliqué. Le tennis, le sport est compliqué. Mais là, encore plus parce que d'autres sports arrivent. Avant, on avait du mal à voir tout ça, à regarder parce que c'était compliqué. Aujourd'hui, quand tu vois la chute libre, avant il fallait un hélico, maintenant t'as plus besoin, le mec il met un truc sur sa tête, il y va, et puis tout le monde, puis il a des millions de vues. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les domaines. Mais c'est pas grave, mais ça fait avancer le sport, ça fait avancer aussi le monde, ça permet aussi à nos enfants de pouvoir avoir une autre passion, ou d'aller dans d'autres directions. Mais attention au sport qui a été déjà implanté et qui se dit, oh c'est bon, je suis tranquille. Non, c'est pas facile. Hein.
C'est vrai. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'écrire? Parce que on est là aussi parce que un jour tu t'as décidé que t'allais parler de toi un peu plus.
On a décidé avec Maya de faire ce livre.
C'est
elle qui m'a. J'ai rencontré une femme extraordinaire il y a 9 ans qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et de comprendre comment je suis. Voilà, c'est juste ça.
Tu t'es rencontré en fait.
Je me suis rencontré finalement. J'ai enfin affronter le... Ben, je ne vais pas dire le diable, mais c'est pas loin, avec une personnalité différente, avec un homme qui s'affirme aujourd'hui et qui est heureux et qui accepte ce qui lui est arrivé. Voilà, ce qui m'est passé dans ma vie. Et ça, c'est pas facile.
C'est pas facile, oui.
Parce qu'il y a eu des rebondissements. Et donc, on en discutait. J'ai fait un énorme travail sur moi-même pour pouvoir comprendre pourquoi je voulais tellement être aimé. Donc... voulez qu'on m'aime, parce qu'il y a aussi une souffrance, parce qu'on a tous nos secrets de famille, on a tous
nos secrets d'enfance,
on arrive sur Terre avec une certaine, comme on dit, Dora l'Exploratrice, avec un petit sac à dos, que l'on veut ou que l'on ne veut pas, et après il faut comprendre pourquoi, et pouvoir l'analyser pour être une meilleure personne, voilà, et donc ce livre... J'avais fait deux avant, mais c'était pas des livres, c'était des livres un peu de revanche. Il y a des gens, parfois on écrit des livres et puis on veut en mettre une couche supplémentaire pour avoir un peu de haine contre les uns et les autres. C'est nul.
On règle ses comptes.
Ouais, mais c'est nul.
Ouais.
Parce que
c'est nul. Ça fait partie d'un chemin.
Ouais, t'as raison, bien sûr. Oui, c'est nul et à la fois, peut-être que c'est. Et puis quand tu fais un livre, c'est un peu une psychanalyse, hein.
Ouais.
Parce que là, ce livre-là qu'on a fait ensemble.
Celui-ci s'appelle Balle Neuve.
Ouais,
donc, Balle Neuve, il y a quand même quelque chose dans le titre, là.
Balle Neuve, c'est une continuité. C'est aussi, tu es toujours dans la vie d'aujourd'hui. comme dans le tennis, tu es toujours en train d'avancer, de faire ton propre match, ta propre vie. Mais tout d'un coup, on change, allez, on balle neuf parce qu'on remet encore, faut réaccélérer pour pouvoir encore aller encore plus de l'avant.
On a fait 8 jeux, c'est ça ?
Oui, tu fais 8 jeux.
C'est tous les 8 jeux qu'on change de balle ?
7 et 9.
7 et 9, d'accord.
Donc au début, quand c'est le début du match, 7 et 9, bon ça, mais c'est quand c'est au 5e set, on change de balle, tu vois ?
Ouais.
Et là, tout d'un coup, tu as la fatigue, les émotions, le stress, le public, tout le monde. Donc tu tapes et tout d'un coup on dit ah mince, ça, là ça va aller encore un peu plus vite.
C'est ça, parce que c'est peut-être que ceux qui jouent pas au tennis se rendent pas compte, quand en plein match on change de balle, c'est pas tout à fait la même sensation. Hein.
Ah ben non, ça va beaucoup plus vite. Et toi malheureusement, t'es parfois où t'es en meilleure forme
beaucoup
physique
plus fatigué.
Et t'es un peu plus fatigué. Ouais. Et là, il faut s'adapter. Il faut tu changes de raquette parce que la tension, c'est pour certains. Ouais. Moi, ça, je ne le faisais pas trop souvent parce que j'aimais bien...
Parce que
bien...
là, par exemple, Djokovic, systématiquement...
Tous les joueurs.
Ils changent. Tous maintenant. Hein.
Tous. Ouais. Parce que le matériel a évolué et le cordage n'est plus le même que nous. On jouait avec du boyau.
Ouais.
C'était différent. Les balles étaient plus rapides, plus petites. Moi, je commençais avec des balles blanches, tu vois. Donc après, on a fini avec des balles jaunes.
Ouais.
Ça a été... Et c'est différent. Et puis, ce n'est pas le même tennis.
Aujourd'hui,
ça frappe. Et c'est pour ça que aussi physiquement, ils sont démontés, les gars. Ils frappent tellement fort que le tennis, les balles ont évolué. Elles sont plus lourdes et un peu plus grosses. Les raquettes ont évolué pour donner un peu plus de vitesse, mais faut l'accepter, le choc dans le bras, dans le cou, dans les épaules, dans le dos. C'est pour ça qu'on voyait beaucoup plus de blessures, je trouve, par moment. Aujourd'hui que...
Et des blessures longues.
Oui, parce que voilà, lorsque l'on frappe dans cette balle-là, c'est pas la même chose que nous, on jouait déjà avec des raquettes en bois, on a évolué, on a eu du graphite. Après, c'est énormément évolué. Et on a fini avec... Mais aujourd'hui, quand on voit le matériel, comme dans tout sport, regarde la Formule 1, regarde le ski.
Le ski.
Et le ski, avant, moi, je parlais par exemple avec Luc Alphand. J'ai fait des courses automobiles avec lui, on faisait le trophée Andros, on avait truc. Et j'étais monté à côté de lui. Mais j'ai dit, mais tu freines un jour. On me fait, mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? T'es un fou, toi. Il était derrière, je ne voyais rien, il y a de la neige partout. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? Moi, j'étais à 120, 130 sur des skis de 2m12, 2m14 à la descente
à Bellevarde.
Oui, à Kitzbühel.
Ouais.
Donc, et quand on voit les skis aujourd'hui, regarde les descendeurs, c'est beaucoup plus petit. Parce que les skis, ils ont une performance incroyable parce que le matériel évolue. Mais. Le problème qu'on a encore aujourd'hui, et on le voit même encore dans le ski, est-ce que l'être humain, ils ont obligé d'avoir des cuisses, des muscles, d'une performance extrême, et ça pète, ça casse. C'est pour ça qu'il faut faire attention.
Il faut faire attention. Alors, j'imagine que c'est aussi l'idée du livre, c'est de dire, voilà ce qui m'est arrivé, parce que toi, personnellement, tu as eu 3 blessures, on en parlait juste avant de commencer, là tu me dis 3 blessures, 3 hernies discales, c'est ça ?
3 hernies discales opérées. C'est-à-dire que la première fois, quand ils m'opèrent en 87, c'était Pierre Sagnier et Gérard Saillant. Ils ouvrent.
Ah, le professeur Saillant.
Professeur Saillant, un monsieur extraordinaire. Ils ouvrent, ils font hop, il y en a 3.
Il y avait 3 hernies.
Il y avait déjà.
Déjà à l'époque.
Déjà, le dos était fatigué. Alors, ils me font, Henri, on va faire une à la fois, puis on viendra nous voir, c'est pas grave. Et ils ont bien fait. Parce qu'il y a eu un autre joueur qui s'appelait Miloslav Mečir, qui était aussi dans ma catégorie. Lui a eu le même problème. Et il a dit, non, vous m'opérez les 3. Il n'a plus jamais rejoué.
Il n'a plus jamais rejoué.
Donc, comme quoi, ça a pu changer. Hein.
Alors, tout de suite, quand on pense hernie discale, parce que le dos, ça fait toujours peur. Quand on pense hernie discale, on pense difficulté à marcher, difficulté à se lever, difficulté à s'asseoir. Et quand on est un athlète de haut niveau, parce qu'à l'époque, en 87, quand tu as ta première opération, tu es déjà dans le top 10, il me semble.
Oui, mais c'est pas...
Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, comment je vais rebondir, quoi ? Rebondir, tiens, c'est...
Oui, reprendre la balle au bon.
Oui, reprendre la balle au bon.
Déjà, moi, je suis quelqu'un qui ne lâche rien. Pour moi, c'était un obstacle. Et puis, c'était aussi un moment où... c'est un défi, quoi.
Ouais.
On t'opère, on va le prouver. Je me rappelle même Jean-Paul, il disait, non, Henri, c'est pas faut opérer, c'est pas possible.
Jean-Paul, c'est Jean-Paul Lhote.
Jean-Paul Lhote.
On va parler de Jean-Paul Lhote, parce que Jean-Paul Lhote...
C'est la voix du tennis. C'est lui
et
qui l'a découvert.
Et puis, c'est lui qui vous a accompagné dans cette... On parlait de cette période des années 80-90. C'était le consultant à l'époque du tennis.
Et puis c'était le directeur technique
national. Et le directeur technique national, c'est celui qui vous a accompagné sur cette route quand même.
Oui, qui m'a accompagné, on reviendra un petit peu sur ça, mais pour revenir un petit peu sur le dos,
ouais.
Ça a été terrible, mais c'était le début des années 80, on n'opérait pas souvent du dos. Puis c'était risqué, tu pouvais retrouver en chaise roulante. Hein. À un moment, le chirurgien, il fait le truc, touche la moelle épinière, pof !
Terminé.
Au revoir. Et ça a été vraiment les premières opérations qui ont été réalisées. Et moi, ça s'est très bien passé pour la première, pour la deuxième. Et la troisième, il y avait encore une évolution. C'était le docteur Borner qui m'a opéré. C'était nucléolyse percutanée. C'est-à-dire qu'on ouvrait un petit peu, mais on passait à l'intérieur et on enlevait simplement juste l'hernie. Et c'était une évolution qui était exceptionnelle. Ouais. C'est pour ça, ce qui m'a permis de pouvoir revenir 3 mois avant la Coupe Davis en 91, parce que je marchais à peine.
C'est ça,
je marchais de un pas comme ça, tac, tac. Et puis voilà, après il y a toute l'histoire qui est dans le livre, mais qui est exceptionnelle avec Yannick Noah et Patrice Ajouleur.
Parce que quand 3 mois avant la finale de la Coupe Davis, tu as du mal à marcher, est-ce que tu imagines, parce que tu dis, moi je suis quelqu'un qui ne lâche rien, mais est-ce que tu imagines que tu vas pouvoir y aller, si jamais il y a besoin?
J'y crois toujours, j'ai toujours ma petite lumière, tu sais, qui est dans ta, ouais. dans ta tête, qui se dit, ouais, s'il me provoque quand même, ouais, j'aimerais bien ça, parce que je suis là. Moi, je suis un fighter. Donc, à la limite, que je suis dos au mur, je suis encore plus dangereux que normalement, quoi.
Parce
que
tu les te révoltes.
Je me révolte. Donc, et puis, ça a été le moment avec Yannick et Patrice, ils me disent, bon, tu viens à Pau, on joue la demi-finale contre les Yougoslaves. Et tu vas venir encourager les copains.
Tu viens nous voir.
Tu viens nous voir. Moi, je marchais à peine, toi. J'ai du mal à jouer. J'avais mal au dos encore. Ça n'allait pas. Je venais juste de me faire opérer. Et puis, je suis debout. Et puis, après le match, on gagne. Et puis, ils me convoquent devant la piscine du Mercure à Pau. Là,
à Pau. Je la connais, cette piscine.
Oui, avec Patrice Ajouleur et Yannick Noah. Puis, ils me disent, bon, oui, bah, donc ils me convoquent. Ils vont me dire, bon, écoute, Henri. Voilà, on est en finale, il va falloir. Tu vas venir, on va pas te lâcher, mais bon, essaye. Voilà, tu vas.
Ouais, tu vas être avec nous, quoi. Voilà, bon, ouais.
Mais pas du tout ce qui.
Tu moi, vas couper je m'attends les
pas
citrons.
Ouais, je m'attends pas du tout à ce qu'ils me disent que Yannick, il est là, avec Patrice, ils font bon, écoute, on est en finale, et la finale, on va gagner avec toi.
Ah, c'est bon, ça.
Et là, je peux te dire que. Tout d'un coup, slick, ça remonte, parce que. La meilleure équipe de double, c'est Guy et toi. Vous n'avez jamais perdu. Et on joue les Américains. Et
ils sont forts.
Et ils sont forts, mais nous, on peut créer quelque chose. Est-ce que tu es prêt? Je dis, attends, moi, déjà, il m'a dit ça, j'ai plus mal au dos. Enfin, bon, j'ai toujours mal, mais... J'étais déjà remonté comme un réveil. Et puis, il me dit, tu vas partir à Douarnenez, au centre de rééducation.
Ah oui.
Tréboul. C'est pas le 5 étoiles, on n'est pas à Monaco, on n'est pas...
On n'est pas au métropole.
On n'est pas au métropole, on est un centre de rééducation où tous les accidentés du local ou de toute la France qui peuvent venir. Parce que c'est un centre qui est réputé, et Patrick Chamagne, qui le connaît bien, parce que le médecin s'appelle Gilles Solo, et lui, il avait eu un accident de moto,
ouais.
Et il était en chaise roulante, il devait être limite paralysé, et il s'en est sorti. Et il a dit, on y va. Et là, on est parti, ça a été, mais Rambo, c'était commando, 6 à 8 heures par jour de soins. Ah ouais,
j'imagine.
Parce que t'as pas le choix.
Parce qu'en 3 mois, sinon, ça, c'est pas possible.
J'ai vécu des moments, mais exceptionnels. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. J'ai rencontré un médecin, Gilles Solo, qui me voit, me fait. Bon, c'est pas gagné. Hein.
Bah, tout de suite, ça met en forme.
Mais hein. C'est le breton, c'est le bon breton qui ouais. sort ton bateau par tous les temps. Et il me fait, c'est pas gagné, mais bon, si tu veux vraiment, à mon avis, on va y arriver. Déjà, mais on te dit pas, ah bonjour, c'est le camp, tout va bien, ah oui, on va faire des petits soins, tout ça, gna gna gna. Non, non, là, et on a bossé, réapprendre à courir, réapprendre à marcher, parce que je courais sur les pointes, enfin, je cours plus sur les talons.
Sur les talons, ouais.
Bien enrouler, être plus bas sur les jambes, changer mon service. Aussi, parce que je cambrais énormément.
Qui était quand même une arme d'Henri Lecomte, son service. Hein.
Ah oui, puis il a bien fonctionné après.
Il a bien fonctionné. Hein.
Donc la base était bonne, tu vois ce que je veux dire là, elle était un peu saine, tu vois. Donc il y avait beaucoup de travail à faire derrière. Et puis on l'a fait avec Patrick. Et puis et c'était des moments exceptionnels, des moments de joie, des moments de pleurs. Parce que des moments où tu souffrais tellement, tu avais tellement mal. Je peux te dire, j'ai un escalier qui doit faire 180 marches. je le connais par cœur. Je suis monté en désordre et démonté comme Rambo. C'était
C'était la préparation d'un combat.
Préparation d'un combat, de boxe.
Ah ouais.
C'était voilà, c'est Stallone qui joue, qui va combattre le Russe et qui s'entraîne à l'ancienne. Et mais c'était extraordinaire. Et puis tu rencontres des belles personnes, des personnes qui, moi, un petit gamin, tu vois, Gilles Saul me dit avant de pas y aller, tu veux aller au premier étage, il y a quelqu'un qui t'attend. Tu vas au premier étage. Et puis tu vois un petit gamin qui a 13-14 ans, qui est dans un fauteuil, il bouge que la tête, tétra, tu vois, et il me fait « Oh Henri, je suis tellement content de te voir et tout, comment tu vas ?» Le mec, il bouge que la tête, quoi. Ah. Il a très serré. Je lui dis « Mais et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Ah oh, bon, non, moi j'ai fait le con, j'ai pris la mobilette d'un pote, et puis malheureusement, dans un carrefour, une voiture est arrivée, et bam !» Je lui dis « Mais ça va ?» Du moment, mais t'inquiète pas, moi ça va aller. Mais toi, hein, tu vas nous la gagner, la Coupe Davis. Hein. » Qu'est-ce que tu veux faire derrière?
Ah bah oui, c'est ça.
Là,
sûr,
derrière, hein. Où tu prends tes affaires, tu rentres chez toi, tu fais tout de suite, t'es plus là, ou alors tu te bats.
Et c'est plutôt ça.
Et tu te bats, et puis après, tu apprends que lui, ben, il va mieux, que bon, il n'a pas récupéré ses jambes, mais il a récupéré le haut du corps, il est fort, mais voilà. Quoi, donc,
ça va mieux.
Ça va mieux. Et il est heureux. Et donc, voilà, tu n'as pas le droit, parce que tu rencontres des gens fantastiques, que ça soit même aussi des personnes âgées qui sont là pour la rééducation, et toi, tu te retrouves dans la piscine en train de faire oum le dauphin avec la balle en haut, en train de comme ça, puis tu es avec eux et tu te marres. Après, tu rencontres un pêcheur qui tombe de son tracteur, il se casse le coude, mais sa meilleure chose qu'il a à faire, c'est le 3 ou 4 du mois, il a plus sa paye, ouais, parce qu'il est au bar du coin, et puis voilà. Mais tu vis des moments, c'est tellement beau. Alors après, je vais te dire, quand t'as quelque chose en tête, tu y vas, quoi.
Bah, j'allais te dire, là, en feuilletant le livre, en t'écoutant, il y a un mot sur lequel je suis tombée par hasard, c'est karma. Et donc, je me disais, le karma d'Henri Lecomte, c'est peut-être ça, c'est de relever des défis, parce que t'étais pas prédisposé à vivre cette vie d'aventure-là, quoi. C'est-à-dire que, à quel moment tu décides, tu dis à tes parents, moi, je veux être tennisman.
4 ans, 5 ans.
Ah ouais.
Ouais. Ah, je suis un malade, je suis un marteau, moi. Je l'explique aussi dans le livre. Mais j'allais à l'école avec ma raquette, avec ma balle. Je prenais à chaque fois une balle.
Tu faisais du mur ?
Je faisais du mur avec la main. J'ai été viré plusieurs fois du lycée Pierre Brossolette parce que les balles, c'est le même diamètre que les gouttières. Donc il y avait tellement de balles que quand il pleuvait, ça rentrait dans les classes. Le compte chez le proviseur. Et puis l'école, moi je parlais pas, c'était pas mon truc.
T'étais pas bon élève.
Si, bon, mais disons, j'étais à côté du radiateur, me marrais un peu. Lorsqu'il y avait une rédaction libre, sujet libre, je prenais un 17, un 18 parce que je parlais tennis. Et le prof, il disait c'est merveilleux. Puis les autres, non. Je pensais que, tu vois, quand j'avais une note en maths où j'avais 10 ou 11, j'allais pas aux autres interros, que j'allais avoir 11 de moyenne. Non, c'est pas comme ça. Donc, et professeur principal, une femme, qui dit à mes parents, écoutez, votre fils, je l'ai, je crois que c'est prof de français, je l'ai, il est extraordinaire quand il commence, et en plus, il est faux, ça va, mais il pense qu'au tennis, quoi.
Il pense qu'au tennis.
Il faut essayer quelque chose.
Il faut lui faire faire du tennis.
Donc, je ne sais pas comment avec la fédération, et puis, fil en aiguille, ça a été très bien, puisque Jean-Paul Lotte, qui était le DTN à l'époque, décide de faire le premier sport-études.
Sport-études, ouais. C'était d'ailleurs une révolution, parce que c'est le premier sport en France qui a installé cet équilibre entre les études et la formation, enfin en tout cas le développement sportif. Ça a servi de modèle. C'est-à-dire que les centres de formation de football qui sont maintenant légion sont nés après, ils sont nés de ça. Le tennis a montré la voie quand même.
Le tennis, et puis surtout on a eu la chance d'avoir un institut qui s'appelle l'INSEP, l'Institut National des Sports, et c'était les premiers sports-études, et on s'est tous retrouvés avec tous sports confondus.
Ouais.
De l'escrime au judo, à l'athlétisme, on n'avait pas le foot encore, c'était pas encore le
non,
foot.
Non, il n'y avait pas encore le foot.
Et ça a été des moments extraordinaires. Donc, et puis, j'ai eu cette chance, comme je jouais assez bien au tennis, jeune, bon, ça allait un peu au dehors du court à l'époque, hein, tu vois, ça volait un peu, il fallait que ça rentre un peu plus. Décrocher les bâches, et il y a eu un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Lotte, et dit on va prendre Henri Lecomte à l'INSEP. Et voilà le début.
Et voilà le début. Est-ce que ça. Alors, tu as parlé de Guy Forget, tu as parlé de Yannick Noah, tu as parlé de Patrice Agelois, tu as parlé de Jean-Paul Lotte. On imagine que le tennis, c'est un petit monde quand même.
C'est un petit monde. Puis surtout, il y a eu bon, Jean-Paul le premier, mais après, il y a un homme qui, je parle dans le livre, qui m'a sauvé et qui a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est Yon Tyriac.
Ah oui.
Ah oui, mon papa ours. C'est mon deuxième père. C'est l'histoire.
Il a été exigeant avec toi quand même.
Hein? Pardon? Pas exigeant. Il m'a appris à souffrir.
Quand parce que Tyriac, il a cette réputation.
Bah, Tyriac, il me fait toi, jouer beaucoup, toi, pas crampe, toi, continuer.
Ah oui.
On jouait 6 heures, 8 heures par jour. Je me souviens en Australie avec Guillermo Vilas, on jouait 8 heures par jour, on mangeait sur le terrain. Et c'est pas le. On avait des chaussures, c'était pas des Stan Smith, c'était des trucs en toile. Ouais. C'était un gazon qui allait à 200 à l'heure, il y avait des mouches. Et tu te disais, tu faisais 2 heures de revers, 2 heures de coup droit, 2 heures de service, et on y va et on repart le lendemain. Donc j'ai appris à souffrir, j'ai appris comment être un joueur professionnel. Et surtout, avoir une éducation, parce que Yon, c'est la classe, c'était mon papa, c'est mon papa, parce qu'il est toujours présent, et c'est merveilleux, mais qui m'a appris à être ce que je suis aussi. Parce que ma base dans l'éducation était bonne, déjà, avec mes parents,
ouais.
Mais il m'a appris à respecter les sponsors. Fait, toi, tu dois prendre toujours un costume, trois vestes, cravate, chaussures pour les sponsors, pour dire merci beaucoup. T'as compris? Bon, oui, donc je suis allé chez. À l'époque, c'était Emmanuel Kahn. C'était vraiment, tu vois, la classe. Parce que quand on voyait M. Tyriac, même quand on voit Monaco, ça plaisante pas. Il est habillé, il a quatre épingles. Tu le caresses, c'est du cachemire. T'as l'impression, c'est magnifique. Et surtout, il impose. C'est une classe exceptionnelle.
Classe.
Et il m'a éduqué, il m'a appris à faire. Être ce que je suis aujourd'hui, de pouvoir respecter les gens. Et puis après, il m'a laissé partir, mon envol, quoi.
Parce que tu parles beaucoup de rencontres. Hein. Tu parlais de Maya tout à l'heure. Est-ce que tu penses que tu as toujours été ouvert comme ça aux gens qui ont traversé ta vie et qui ont pu déclencher des choses chez toi? Parce qu'on sent, hein, tu parles de tous ces gens dont tu parles. On sent qu'ils ont fait... Tu dis, ils m'aident à être ce que je suis. Donc ça veut dire que tu as une prédisposition pour laisser les gens entrer. Alors, c'est pas facile quand on fait un sport individuel et qu'on est obligé de croire en soi. C'est pas facile de se remettre en question. Ou en tout cas d'accepter qu'on puisse avoir des influences comme ça.
Oui, mais comme j'explique dans le livre, au départ, je voulais qu'on m'aime.
Ah ouais.
Donc plutôt, tu vois, c'est la grande baleine... Il ouvre sa gueule comme ça, et mais moi, je prends tout le monde.
Ouais. Puis, les bons et les mauvais.
Les bons et les mauvais. Et c'est pour ça que j'explique aussi les rencontres dans ce livre, qui parfois, tu fais des bonnes rencontres, tu fais des mauvaises rencontres, qui te font comprendre, évoluer dans ta vie. Mais ces rencontres-là, tu peux pas sauver le monde. Moi, je voulais sauver tout le monde. Quand une personne rentre dans ta vie, qui a une addiction, qui est va dans une autre direction. Ou tu la suis et tu sombres, je serais certainement plus là aujourd'hui, pense.
Si tu avais pas réagi.
Si j'avais pas réagi, je serais plus là aujourd'hui, parce que je serais allé et puis je serais parti. Mais moi, je suis quelqu'un de passionné.
Entier.
J'adore. Je suis épicurien. Je suis contre. C'est mon éducation et je suis contre. Et tant mieux. Toute drogue confondue. J'ai de la seule. Bon, le seul truc, j'adore le cigare. J'en fume de temps en temps. Mais il y a des gens qui ont besoin de certaines choses. Et alors, imagine déjà moi ma personnalité comme je suis avec le peps que j'ai. Si je prends
un excitant,
je suis pas là, je suis fini, je suis mort. Donc, mais j'ai voulu sauver les autres et tu peux pas les sauver. Mais ça, tu vas comprendre et tu comprendras plus tard que voilà comment tu es et comment tu évolues. Et les rencontres, elles sont faites pour ça aussi. Il y a des bonnes rencontres qui sont exceptionnelles. Moi, j'ai rencontré Maya, elle m'a changé la vie, elle m'a fait comprendre qui je suis. Mais elle m'a pas, c'est pas elle qui a fait, c'est moi, mon travail intérieur. De dire, j'accepte, j'y vais, et d'accepter comme tu peux ressentir certaines choses et des émotions. Et ça a été exceptionnel. Moi, si j'avais pu rencontrer Maya avant, j'aurais gagné 2-3 grands chelems. J'aurais pu gérer mes émotions. J'arrivais pas à les gérer parce que je voulais tellement donner que, tu sais, tu donnes tellement que tu te brûles. Tu brûles de l'intérieur, tu brûles de l'énergie, du gasoil, de l'essence, tu brûles de tout. du kérosène, parce que tu veux tellement que...
Et ben justement, quand on se brûle autant, parce qu'effectivement, hein, c'est l'image qu'on avait dans Et le compte sur un cours, c'est-à-dire à 150% dans tout, dans les émotions, dans les coups, dans le service, dans l'exubérance. Voilà. Et comment on se recharge?
Alors, moi, j'ai une faculté, quand j'étais joueur, et puis même encore aujourd'hui, je le vois, je dors n'importe où. tu me mets dans un truc, je m'endors. Je pouvais même mettre dormir debout avec les gens comme ça, je dormais. Ça, c'est déjà extraordinaire. Et ce qui était, quand je jouais, ce qui était bien aussi, comme disait Patrice Dominguez, c'est que j'arrivais à occulter. C'est bien d'occulter.
Ouais.
Mais après, ta corbeille, elle est quand même pleine. Tu vois, c'est comme un ordinateur. Un ordinateur, quand tu vides ta corbeille, il faut la vider, il faut la supprimer. Donc tu supprimes tous les mails, toutes les spams, les conneries, que tu as. Mais
les choses que tu n'as plus envie d'avoir.
Dans ton cerveau, il faut que tu le fasses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand on arrive sur Terre.
C'est ça que tu expliques dans Balneuve, en fait. Hein.
Bah oui. Quand tu arrives sur Terre, c'est Dora l'exploratrice, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec le petit sac à dos. Bah, tu arrives avec déjà les différents sujets, problèmes de papa, maman.
Oui, il y a un atavisme. Il y a quelque chose qui te suit.
C'est comme une tablette, un portable. Tu achètes un portable, tu as des applications. Ouais. Moi, j'ai des applications, je n'ai jamais joué. Ce n'est pas mon truc, les jeux. J'aimerais les supprimer. Je ne peux pas. C'est rentrer, toi, tu veux, pour pouvoir un peu plus de mémoire ou être un peu plus léger ou autre. Toi, parce que bon, même si tu ne t'en sers pas, tu dis, mais ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Donc après, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qui est important, c'est de se dire et ne pas avoir de regrets et d'assumer tout ce que j'ai pu faire aussi dans ma vie. Les bonnes rencontres, les mauvaises, les moments difficiles, les enfants aussi, parce que j'ai pas mal d'enfants.
Alors, il me semble que tu en as 4.
Oui, j'en ai 4, oui, déclarés. Je rigole. Chaque fois, je balance cette histoire-là.
4
merveilleux enfants.
Ça ressemble à ce que tu dis, c'est-à-dire la passion, c'est aussi ça. Hein. C'est pas un enfant, c'est 4.
Alors, les deux derniers, oui, ils sont arrivés, ils sont merveilleux, ils sont fantastiques, c'était plus à la fin de carrière, mais il faut savoir que nous, lorsqu'on a commencé à être sur le circuit, c'était la génération enfant.
Ouais.
Tout le monde avait des enfants, tout le monde était marié, avait des gosses, on les emmenait dans les tournois, c'était la crèche, mais alors c'était les bus, tout le monde se gardait les uns avec les autres. Moi, quand je vois maintenant Maxime, qui a 38 ans, qui vit à l'étranger... il est toujours en contact avec les
Maxime, fils... c'est ton premier.
Ouais, mon premier Maxime, qui est toujours en contact avec les fils de Mansour, avec Barami, avec les copains avec Yannick. Voilà, donc c'est. Et puis après, il y a eu Luna, qui est ma deuxième fille, qui elle vit à Londres et maintenant elle a 28 ans. Voilà, c'est aussi elle a
le propre. Le temps passe,
elle a sa vie. Ouais, mais c'est beau, c'est bien. Ils ont leur propre vie, ils s'éclatent. Puis après, tu as les deux petits. Alors, les deux petits, j'en ai une de 17 ans, une fille, elle, à l'école, ça va. C'est beaucoup les réseaux, tu vois ce que je veux dire? Plusieurs comptes. Même beaucoup, plusieurs
avec
comptes.
Avec des filtres.
Avec des filtres, avec des photos parfois un peu. Bon. Mais voilà, il faut s'adapter. Et puis, j'ai un fils qui a 19 ans. Alors là, il est à la recherche. Allez, c'est compliqué.
Ah bah. Moi, j'ai dit toujours, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre.
Oui, donc, la recherche. Mais il a une passion, mais voilà. Il est intelligent, il va trouver sa voie, mais ça met un peu plus de temps, parce que ce n'est pas évident aujourd'hui. C'est compliqué pour eux.
Ils ont lu ton livre?
Je leur ai donné, mais j'espère qu'ils l'ont lu, oui.
Non, parce que, est-ce qu'avec eux, tu as ce rapport que... Alors, évidemment, pas le même qu'avec Maya, mais est-ce que avec tes enfants... Tu as eu ce rapport de discussion de ça c'était bien, ça c'était pas bien.
Moi, j'ai retranscrit un petit peu l'éducation que j'avais eue avec mes parents. Je suis quelqu'un de gentil, comme tu peux voir, adorable, tout ça, mais je suis strict. Il y a des choses qu'il faut pas faire.
T'es un papa sévère.
Je suis un papa sévère. Moi, je suis un papa, bonjour, au revoir, si ça, t'arrives en retard, c'est pas bien. Donc, il y a une base.
Il
y a une base qu'il ne faut pas déroger. Ça ne rentre pas dans mon cursus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont très, très bien éduqués. Ils sont adorés par les gens quand ils vont. C'est marrant parce que quand ils vont chez les autres, ils disent « Qu'est-ce qu'ils sont bien, tes enfants ?»
Ah bah oui.
Mais à la maison. Comme nous tous, hein, tous les enfants. Mais après, là, j'ai mon fils, 19 ans, il est rebelle. Il n'a pas compris à un moment qu'il a fait quelque chose. Je lui dis « Non, c'est pas bien. » Et là, il me tient tête. Donc, bah, il va le souffrir. Il va apprendre, ce
il
petit.
Il tient tête à Henri Lecomte.
Ah oui, non, mais il tient, mais grave. Ah ouais, bah, mais
comme il dit, il sait ce qu'il est en train de faire ou pas?
Oui, ouais, il a, oui, mais je crois qu'il va comprendre. Mais aujourd'hui, c'est différent et c'est pour ça qu'il faut les comprendre aussi. Ce n'est pas à nous, on doit aussi s'adapter. Ouais. La vie n'est pas la même que quand on avait, nous, quand on avait 18 ans. Nous, c'était fantastique, on n'avait pas de portable, on n'avait rien. On était, mais c'était extraordinaire. On avait une liberté qui était beaucoup plus... C'était différent, il y avait moins de monde sur Terre aussi.
On était moins observés.
Oui, moins observés.
Moins observés.
Mais il fallait quand même appeler maman.
Oui, mais...
Mais c'était différent.
En dehors des 5 ou 10 minutes au téléphone avec maman,
oui.
Si tu mangeais 4 sandwichs, elle ne le savait pas.
Bien sûr.
Si tu sortais jusqu'à 4 heures du matin, elle ne le savait pas.
Non, on avait fait le... Bien sûr, qu'aujourd'hui...
Alors, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, le pendant de leur surexposition, c'est qu'on sait tout.
Je crois qu'aujourd'hui, on va dans une direction qui n'est pas bonne non plus, parce qu'il n'y a plus de liberté, et que l'enfant et nos enfants doivent aussi avoir leur responsabilité et comprendre ce qui se passe. Ouais. Alors, il est vrai que les filles ont plus... Vous avez une maturité plus importante, et enfants... Et...
Peut-être qu'on comprend des choses différemment plus vite.
Voilà. Les garçons sont aussi, même pour eux, même pour la vie, pour eux, pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir vivre aussi sa vie sexuelle, c'est compliqué aussi. Et puis tu es toujours épié, jugé. Et je pense que c'est ça qui est dramatique. On voit tellement de choses, moi je vois, pour les réseaux sociaux, qui se passent dans les écoles en ce moment, où là, c'est terrible. Donc il faut les aider. Faut les suivre, faut toujours vérifier. Moi je vérifie toujours mes enfants. Sur les réseaux, plus pour Marie-Lou, parce que Marie-Lou, elle, c'est en avant Guingamp.
C'est ça.
Et Ulysse, c'est un peu moins. Il fait une faute tonton, mais il n'est pas très...
Il est moins expansif.
Ouais, il est plus un peu réservé, mais il souffre tout autant. Et le problème qu'ils ont avec ce fantastique outil que l'on peut utiliser tous les jours pour être encore plus performant, ils vont trop vite. Et ils pensent que c'est plus simple. Et c'est dur. Et c'est violent.
Bon, après, tu connais l'adage. Hein.
Ah oui.
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
Bien sûr. Et puis aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Mais
c'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes?
J'ai pas de choses que je regrette parce que...
Tu les aurais faites différemment, c'est ça?
Oui, certainement. Oui, j'aurais fait différemment. Certaines rencontres, certains moment où j'aurais peut-être pu dire la chose, peut-être que ça a été le choix à un moment. Toi, j'ai eu Nick Bolitieri qui m'a demandé de venir chez lui et j'ai dit non. À un moment, quand j'étais parti de chez Yon Tyriac avec Yon, j'ai dit non pour des raisons en plus vraiment personnelles et de l'époque, parce que non, la personne avec qui j'étais ne voulait pas aller aux États-Unis ou tout ça.
Ah.
Donc, c'est un choix.
Ça
et
arrive.
Puis, ça arrive. Et il faut le respecter. Alors, tu vois, peut-être ça. Parce que Nick Bolitieri, c'était quand même un mec...
C'était quand même...
Quand je le dis dans le livre...
C'est l'assurance tourique, ça.
Dans le livre, quand on bat les États-Unis, il dit quand même... Un journaliste, il fait... le plus dangereux, c'est Henri Lecomte. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais c'est un peu vrai.
Alors oui, est-ce que tu considères que tu étais doué?
Bien sûr que j'étais doué, mais il faut travailler deux fois plus pour contenir et être encore plus performant. Et celui qui l'a compris le mieux au monde, c'est Roger Federer, que j'appelle James Bond. C'est James Bond, Roger. Après, t'as Novak Djokovic, c'est Nole, c'est le Joker. Et puis t'as Terminator qui est Rafa. Mais Terminator, on a besoin même d'être un peu d'huile dans les rouages, là.
Ouais.
À mon avis, on est sur la fin.
Ouais.
Mais c'était des joueurs... Et c'est des joueurs exceptionnels. Et Roger, il a compris tout de suite que pour pouvoir jouer aussi fort, il faut travailler deux fois plus.
Gros travail. Mais tous les trois, hein, des athlètes qui ont beaucoup travaillé, qui travaillent toujours beaucoup. Là, on voit Rafa se battre pour essayer de revenir, alors qu'on sent bien que son corps petit peu récalcitrant. Mais ouais.
Oui.
C'est justement, tout à l'heure, je t'ai dit, est-ce qu'il y a des moments où tu regrettes la décision, quand tu décides d'arrêter ta carrière? Tu dis, j'ai lu quelque part que tu as dit, jusqu'à présent, j'étais joueur de tennis, maintenant, il va falloir que j'ouvre un nouveau chapitre. Est-ce que c'est difficile d'arriver au moment de dire... Ce chapitre-là, pour moi, est terminé.
Ah, c'est dur, parce que c'est une petite mort. Hein. C'est une vie.
Ouais.
C'est avant 50 ans, c'est une première vie, après c'est une autre vie.
Et combien de temps de carrière en comptant les jeunes années,
c'est-à-dire 18, que tu j'ai fait 80, 96, 16 ans.
Ouais, 16 ans.
Avec 16 des hauts et des bas. 16 ans, c'est long. Et à la fois c'est court, parce que quand on voit les carrières qu'ils font aujourd'hui, ils sont mieux préparés, ils vont jouer jusqu'à 40 ans, il y en a même un peu plus pour certains. Nous, moi j'ai arrêté à 33, l'âge du Christ.
33, c'était jeune hein, quand même.
Ouais. Mais après, c'est ça qui est dur. C'est que tu arrives à un moment, tu dis, tu arrêtes, tu fermes la porte, ouais. Tu as la petite mort. Alors tout le monde t'invite pendant 3 semaines à toutes les radios, toutes les émissions, c'est Dieu.
Tu parles de toi,
Dieu.
Tu parles de
et
ta
puis,
carrière.
Et puis 3 semaines après, ça sonne plus le téléphone. Et là, c'est dur. Et là, c'est compliqué. Alors moi, j'ai une chance au départ assez fantastique, c'est que je suis passé tout de suite de l'autre côté de la barrière. J'ai travaillé avec France Télévisions.
Ouais.
Donc on m'a toujours, ma voix est restée, on m'a vu, j'ai pu faire certaines choses.
Oui, oui, et puis tu avais un capital que tu as gardé d'ailleurs. Hein, on parlait avec notre attaché de presse juste avant, quand tu fais une séance de dédicace, il y a du monde, quand il y a des gens qui te posent des questions. Enfin, tu es resté très présent dans la mémoire collective du public.
Mais c'est important parce que à la fois, moi j'ai une relation avec le public d'amour. Je ouais. t'aime, moi non plus.
Ouais.
Et moi je suis quelqu'un de populaire. Je suis quelqu'un, moi je m'adapte avec tout. J'ai eu la chance d'avoir Monseigneur qui est venu hier soir. Et je vais voir une autre personne qui peut nettoyer les toilettes. Je parlerai, voilà, certes, mais voilà, je le respecte.
Ouais, ouais.
Je respecte tout le monde parce que je suis, voilà, humainement.
C'est ton capital en
c'est
fait.
Mon capital et j'aime les gens. J'aime les gens. Et quand ça va pas et je suis fatigué, je reste à la maison. Où je m'enferme pendant 2 jours, je parle pas parce que je suis quelqu'un qui partage, qui parle tout le temps. Donc c'est de l'énergie que tu brasses.
C'est
on
vrai.
Va pas dire du vent, mais tu brasses quoi. Donc à un moment, tu dors, tu te recharges les batteries et puis tu repars. Mais je sais que ma vie, même ma vie d'aujourd'hui, ce que je fais avec beaucoup d'interventions dans les entreprises sur la motivation, la gestion des émotions, parce que
la gestion des émotions,
ça
ouais.
c'est surtout ça.
Ça quoi. Revient beaucoup.
Oui, parce que les gens n'en parlent pas. Alors, on parle beaucoup du mental.
Mais mental, de la santé mentale,
la c'est... La santé mentale, mais il faut pas oublier une chose, c'est que, regarde, on a aussi, malheureusement, regarde, Michael Schumacher,
ouais.
qui est là, qui est devenu un légume, qui vit. Pourquoi il vit ? Parce que son cœur bat. C'est lui, la machine qui alimente le cerveau. Le cerveau est bouché. Certes, on est une machine extraordinaire, une machine de guerre, le corps humain. C'est nous qui déclenchons nos propres maladies aussi. Quand on a un moment, un choc psychologique, ça peut déclencher des maladies. Donc on le sait, mais on oublie notre cœur. Notre cœur, c'est la centrale nucléaire.
Le supplément d'âme, tu penses.
Bah oui, et le cœur, c'est les émotions. Et quand tu arrives à gérer ça, quand tu arrives à comprendre que ce qui se passe, quand tu dois prendre une décision et que tu arrives à travailler sur ce problème-là, t'es mieux, t'es... Comment dire en anglais ? Better
ouais.
person.
Ouais. Comment vous vivez avec Maya ? Est-ce que vous avez un endroit parce que j'ai l'impression que tu voyages beaucoup quand même.
On a notre propre jardin secret. On parle beaucoup. Maya est une femme extraordinaire parce qu'elle me permet de pouvoir exorciser tout ce que j'ai en moi.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'on a toujours un débriefing. Elle travaille dans son domaine bien sûr puisque elle est coach de vie et hypnothérapeute, et elle a ses propres protocoles, elle est allée quand même aussi, c'est là aussi que c'est aussi comme un sportif de haut niveau, elle est partie en retraite, elle a fait 20 ans de retraite, elle est partie en Inde, partout, elle est allée chercher, parce qu'elle aussi, elle a eu ses propres problèmes, ses propres soucis, mais soucis aussi, c'est les enfants, pourquoi, et tout. Et puis surtout, il y a une chose que nous, les mecs, on peut pas comprendre, c'est qu'on met pas au monde. D'accord. Donc on ressent pas les mêmes
Vous
choses.
Vous n'avez pas les mêmes hormones, messieurs.
Non. Donc elle et on a instauré toujours, tous les jours, on fait comment je reviens, comment s'est passée ta journée, la tienne aussi. Puis on parle pendant une heure de tout, de rien. Mais c'est fantastique parce que ça te permet ouais. de pouvoir vider ta corbeille. Et quand tu as un souci, quand tu as un problème, tu parles, on discute. Tu dis voilà, c'est ça. Mais non, ça va aller, t'inquiète pas, on va trouver ça, on va trouver ci. Tu te dors.
Tu vides la corbeille et peut-être, de ce que je comprends, tu mets aussi de l'ordre dans les dossiers
sûr.
De la journée, tu mets aussi de l'ordre dans...
Oui, tu les ranges.
Tu les ranges, ouais.
Parce que parfois, ça se croise. Hein. Ça fait un peu... C'est un peu la guerre. Mais c'est aussi, tu sais, on s'est trouvé, voilà. C'est ouais. deux personnes qui se sont trouvées. On a le même âge. On a nos enfants. Parce qu'à deux, on en a six.
Ah bah oui. Enfin, donc, déjà, quand tu arrives avec quatre, tu vas augmenter le nombre. Ça, c'est
oui,
sûr,
mais hein. là, on en a six. Donc, on en a deux qui sont à Dubaï. Mon fils est à Dubaï et sa fille est à Dubaï aussi, qui est aussi dans le spectacle.
C'est drôle, ça.
Ouais, ouais, c'est marrant. Ils se connaissent très bien. Et tous les enfants s'adorent. Ça, on a une chance inouïe. Et puis après, oui, bah, les
ça
autres...
C'est, ça, c'est une vraie chance.
Ouais. Et ouais. ma fille est à Londres, Luna. Ouais. Et puis après, son fils est à Paris. Et moi, les deux autres sont à Paris.
Et vous, avec Maya, vous êtes passé où ?
On est passé au Luxembourg. Nous. On est partis tous les deux. Alors, c'était incroyable parce que c'était un moment charnière. Maya revenait un peu de Dubaï. Et on s'est rencontrés. Et puis moi, ma vie, un changement de vie. Séparation, tout. Moi, Paris, je ne supporte plus Paris. Ah. J'ai du mal. Et j'étais déjà allé au Luxembourg pour voir des amis, faire deux, trois affaires. Et puis, je me suis dit, c'est super sympa. Puis, je repartais à zéro.
Bah oui, pourquoi pas.
Et puis, Maya, je lui dis, écoute, chérie, tu bah, allez, on y va. Puis, on est là et on est heureux. On a notre petit jardin secret. On est bien. Et on fait notre propre vie. Et l'endroit le plus important, et je l'ai vécu, c'est ça, je peux te le dire, c'est quand t'as ta moitié qui n'aime pas l'endroit.
C'est dur.
C'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est compliqué.
Et là, tu rentres dans une période très difficile. Et tu es. Il faut être bien. Quand tu rentres dans ton appartement, c'est un cocon. C'est voilà.
Ouais, ta maison, il faut qu'elle soit. Ouais.
Et ça, c'est tellement important. Alors, on a retrouvé ça, bien sûr, avec. Malheureusement, ces deux ans qui nous ont bouleversés tous, on l'avait perdu. Les gens voulaient consommer, toujours aller à droite, à gauche, voyager, aller voir des choses exceptionnelles. Certes, parce qu'on a la possibilité de le faire, mais on avait complètement oublié notre maison,
notre cocon. Ce qui fait notre foyer.
Le foyer, et puis les gens, tout d'un coup, ils se sont retrouvés bloqués à la maison, et ils se sont dit, mais quoi, je vis parfois, mais faut que je fasse quelque chose. Faut que je change un petit peu les couleurs des trucs et on commence à être. Et de fil en aiguille, on comprend aussi ce que vit notre conjoint ou le conjointe, les enfants, la contrainte, le monde de tous les jours. Et puis de pouvoir aussi, vivre vraiment ensemble. Et là, il y a un changement.
Vivre ensemble, c'est. Est-ce que tu as gardé dans tout ça, est-ce que tu as gardé une petite place pour le tennis? Est-ce que tu tapes toujours la balle?
Alors j'ai eu une période, moi je joue beaucoup au golf, donc je me suis mis vraiment maintenant au golf parce que j'adore ça. Je me suis, cette année vraiment...
C'est addictif ou pas le golf?
Ah oui, c'est addictif.
Parce que moi on m'a dit, ne commence pas, parce que si tu commences, tu fais plus que ça.
Non, tu fais pas plus que ça parce que tu t'organises. Moi, par exemple, Maya, elle travaille très tôt le matin. Elle commence les premières à 8h. Moi, je suis à 8h10, je suis sur le parcours. Ou le truc, et à 10h. Et après, je passe au bureau, je fais mes mails, ou je joue 9 trous. Voilà.
T'as fait 9 trous avant, oui.
Ouais, mais par contre, le week-end, non. T'es avec ta femme. Il faut essayer, on peut tellement jouer dans la semaine, sauf quand on fait des événements. Où on est invité, c'est un événement important, on y va. Et on y va ensemble. Parce que Maya aussi, je l'ai mis un peu au golf, mais elle n'a pas trop le temps. Elle a un beau swing. Mais ça, c'est un plaisir parce qu'en plus, c'est un sport où tu peux partager avec tout le monde et pouvoir communiquer avec différents partenaires. Moi, j'organise beaucoup d'événements golf aussi. Et là, je fais venir des personnalités différentes, comme il y avait eu avec Mike Powers qui avait organisé il y a 20 ans ici, le International. C'était fabuleux. On le fait avec des personnalités du monde français, un peu étranger ou belge qui viennent. Et les gens, ils sont heureux. Bah, c'est un bon moment. Et après, sinon, je joue toujours un peu au tennis, oui. Je m'amuse avec des copains, de temps en temps. Parfois, je joue deux fois par semaine. Ils sont contents de jouer avec moi. Mais je joue à mes 60, quoi, toi. L'amorti, j'y vais pas, quoi. Pas me prendre pour un con non plus, me blesser. Non.
Quel effet ça fait quand on a eu un certain niveau et qu'on continue à jouer, de voir qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire?
Ah bah ça, c'est ça le plus... difficile de l'entrer dans ton cerveau.
Parce que tu le vois toujours, le coup qu'il faut jouer.
Alors, maintenant, je le vois, je le joue, je le fais, mais je frappe plus. Donc mais c'est pas mal, c'est lent, mais la personne en face ne peut pas l'avoir non plus. Et c'est encore pire. Tu sais, avant, ça allait vite. Maintenant, il fait, paf, tu le mets, et tu sais qu'il ne va pas l'avoir. Alors, tu regardes. Mais non, mais... Et surtout, il faut être... il faut surtout être réaliste qu'on n'a plus 20 ans. Alors, c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que tu peux te blesser.
Ouais.
Parce que là, on fait toujours les tournois, tu sais, on joue en double un peu, comme on joue à Roland-Garros. Je pense que même, moi, c'est certainement la dernière
là,
année.
Là, tu vas jouer, là.
Oui, on va jouer. On fait jouer, on s'amuse, on fait les fous. Mais on ne court plus comme avant. Et parfois, c'est... On rate des balles et on n'est pas bien, tu vois, c'est pas possible. Quoi.
Ouais, ouais.
Donc il faut à un moment dire, bon, j'arrête, je fais autre chose, mais je joue avec mes potes. Voilà. Là, je suis encore cette année à Roland-Garros. Oui.
Et tu sais, tu le sais, il y a des gens qui viennent pour te voir aussi.
Mais j'adore.
Parce que tu dis, c'est la dernière année à Roland-Garros,
non, mais
tu risques de faire des déçus. Hein.
Mais je sais pas, non, je reviendrai certainement, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas non plus être ridicule. Il est vrai que quand on vient me voir jouer, il n'y a pas que le tennis. Je suis un peu un show. Quoi, tu vois, donc dès qu'il y en a
on a parlé fait, du personnage.
Oui, dès qu'il y en a un qui fait une connerie dans les gradins, je dis bah, tu descends, viens jouer. Tu vois, donc je prends mais parce que j'adore ça. Après, je vois la question. Tu me dis pourquoi tu ne deviens pas acteur. Oui, ça c'est mon rêve aussi.
Non, mais moi j'allais te série. Dire presque. Pourquoi tu ne deviens pas cuisinier? Parce que j'ai lu quelque part.
Ah ouais.
J'ai lu quelque part.
Oui, j'ai une proposition métropole.
Voilà.
Je viens de signer.
Alors, je ne l'ai pas lu dans le livre, mais il me semble que quand même... alors d'abord, ce que tu m'as confié, mais que j'avais entendu aussi quelque part, c'est que tu as fait un Masterchef en Angleterre. Hein.
J'ai un agent en Angleterre, il me fait « Henry, yes, you know how to cook? Tu sais comment cuisiner ?» Je dis « Ouais, ok, Celebrity Masterchef. » Boum. Et il me dit, je dis « Mais t'es fou, toi !» Parce que tu vas dans, quand même en Angleterre, même si je parle anglais couramment, même les ingrédients, les mots, il y a des mots que je ne connaissais pas.
Bah ouais.
Donc là, j'ai une pression. Jouer à Wimbledon, sur le central de Wimbledon, c'était rien à côté.
C'est vrai ?
Mais tu ne peux pas savoir. On demande à Maya. Maya, elle était avec moi. On était morts de rire. Je n'arrivais pas à dormir. Ils nous avaient mis dans un hôtel où il y avait une cuisine pour pouvoir s'entraîner. On achetait la bouffe, les ingrédients pour pouvoir tester encore. Mon agent... Il a fait un truc super, il me dit, tu viens 10 jours à la maison, je prends un chef, un copain, et tu cuisines avec lui, tu vas comprendre. Donc le premier jour, mais c'est toujours, c'est magnifique parce que tu arrives, tu es dans la cuisine, tu as la cuisine superbe, on est là, puis un petit verre de champagne, voilà, super, puis il me dit, alors vas-y, fais-moi ce que tu sais faire. Donc je lui fais des trucs, mais non, tu as une super base, c'est bien. Alors maintenant, on va travailler différents plats, travailler avec les pâtes, travailler avec le poisson, travailler avec la viande, travailler... Avec
c'était du training intensif.
Training, et puis après, bah, par contre, tu mangeais derrière. Par contre, là, mon gars, fallait faire venir les potes parce que là, il y avait des plats tous les jours.
D'où le contrat avec Comme J'aime.
Donc après, oui, alors, j'ai dû le faire, oui, bien sûr. Non, bah, Comme J'aime, c'est un autre truc. C'est encore une personne extraordinaire, monsieur Bernard Canetti, qui est extraordinaire. Ça, je te raconterai après.
C'est le patron
après.
De Comme J'aime.
Le patron de Comme J'aime. Il est un mec, une personne magnifique. Et donc, je m'entraîne, mais quand tu t'entraînes à la maison, avec des potes, tu bois une petite coupe de champagne et que tu n'as pas de pression, c'est facile. Mais quand tu te retrouves dans le truc, et alors tu envoies des différentes recettes que tu fais, que tu vas réaliser devant les chefs, donc ça me rend corps, mais parfois tu as un panier, il t'ouvre le panier et il te dit démerde-toi.
Démerde-toi avec ça.
Oh la vache ! Alors donc tu te démerdes. Et après, ils te mettent dans un restaurant, ils m'ont mis dans un restaurant, un vrai restaurant, une brasserie à Londres, avec les différents.
Chef de partie.
Chef de partie, protagoniste aussi, ceux qui sont avec toi, parce qu'on était 23 au départ. Et puis, tu as l'élimination.
Vas-y.
Et donc, moi, je me suis retrouvé dans un restaurant, comme chez Pierre, ici à Monaco, qui est un homme d'une gentillesse extraordinaire, qui est fabuleux, parce que je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans. Et il m'a dit, j'aime vraiment un restaurant ici. Je dis, mais attends, j'y arrive tout de suite. tu travailles chez Pierre, et puis tu es en cuisine, et toi, tu fais les gnocchis. Mais les gnocchis, les vrais, hein. C'est-à-dire que à la pâte, tu les roules, tout ça. Et puis tu dis oui, chef. Quand tu as un gnocchi, tu dis oui, chef, mais quand tu en as 35 et que tu dois servir, et les gnocchis, quand tu les mets à la poêle, tu as intérêt qu'ils ne sont pas cramés. C'est vrai que tu as des commis un petit peu à côté qui t'aident un petit peu.
Oui, oui, mais même, enfin, c'est une responsabilité.
Et là, tu as le chef qui vient et qui t'engueule comme du poisson pourri parce que tu as merdé sur 2-3 plats. Je comprends et je sais ce que ça veut dire travailler dans la restauration. Et en plus, avec ton équipier. Le lendemain ou 2 jours après, tu vas faire à manger pour le centre de recherche à Londres contre toutes les maladies cancéreuses et tout. C'est international. Tu es 2. Moi, j'étais avec un homme et avec de l'autre côté, on avait 2 femmes. Tu dois faire à manger pour 300 personnes. Donc 150 d'un côté, 150 de l'autre. D'accord.
C'est
et tu dois faire un plat végétarien. D'accord. Parce qu'il y en a qui ne mangent pas de viande. Hein, et tu fais un buffet. Et là, tu rentres dans une pièce et tu as du poisson, de la viande, tout ça. Tout a marché. Et toi, tu décides vite ce qu'on fait. Je dis, moi, nous, on fait poulet et agneau. Paf, plus facile. Les autres, ils ont fait poisson. Vas-y, poisson pour 150 personnes. Tu vois ? Donc, tu le fais. Et tu fais des portions à la fois quelque chose. Donc, tu fais, c'est, donc ils se servent, c'est un buffet.
Bah oui,
donc
ça oui, va. Oui, bah
et oui. Puis, on voit après, ils font les notes. Et on voit lequel a été plus apprécié par tout le monde. Donc, ils mettent des notes. C'est encore ça. Et après, un autre jour, tu vas à Dover, Douvres, et tu fais à manger pour 300 personnes pour les sauveteurs en mer. Tu sais qu'ils sont c'est
ouais,
que
ouais,
des bénévoles.
Oui, bah oui.
Et c'est que des personnes qui achètent les bateaux. Et là, alors là, faut pas te tromper non plus, parce que ouais, faut que tu fasses des trucs costauds, parce que les gars, c'est pas des sandwichs SNCF, hein. Tu vois, je veux dire, c'est des gens qui sont costauds.
C'est des gens qui ont besoin. Qui
ont besoin de manger.
Ont
alors
besoin
là,
de manger.
Aussi, faut prendre les bonnes décisions. Donc moi, j'ai eu la chance d'être, ouais. D'être dans le monde du sport, donc je sais les portions. Je dis, alors là, on va pas se casser les dents. On y va. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé en demi-finale.
Demi-finale, quand même. Pour donc quelqu'un quatre... qui a fait ça juste comme ça.
Ouais, et quatre... donc on est quatre. Et tout le monde disait, Henri, c'est Henri qui va gagner. Parce qu'il dit, il est trop fort et c'est Henri. Et moi, les desserts, mais je suis nul à chier. Je sais pas, c'est les proportions, c'est les calculer,
tu,
c'est le
tu
truc.
Tu parles à quelqu'un qui sait pas faire les desserts non plus. Hein,
donc alors j'essaie, puis à la fin j'étais tellement j'étais épuisé et puis.
Mentalement là, pour le coup, si tu dis que tu avais beaucoup de pression, non, mentalement mais là, mais ça devait être compliqué.
Ben oui, mais parce que tout le monde parle du physique, mais de pouvoir gérer et en plus tu parles en anglais,
ouais.
T'as la pression du résultat, t'as la télé parce que t'es filmé du matin au soir. Et puis aussi, ce qui est extraordinaire et ça c'est magnifique, c'est qu'ils te testent aussi, ils te notent sur la propreté.
Sur la présentation.
Présentation. Quand tu dois nettoyer, tu dois jeter, tu te coupes un peu un doigt, hop, ils arrêtent, hop, voilà. Puis voilà, faut que ça soit nickel. Mais c'est ça qui est extraordinaire.
Ouais.
Et c'est une leçon de vie, mais moi j'ai adoré. Adoré. Maintenant je sais ce que c'est que la restauration. Mon fils a fait l'école hôtelière. Il m'a dit, papa, tu vas voir, tu vas comprendre. Lui, ça lui a permis de pouvoir sortir de cette école hôtelière à Paris et de partir et être dans la restauration, mais être patron. C'est le taulier.
C'est le taulier.
C'est lui qui gère l'argent,
faire.
Tout faire. Et il connaît ça.
Oui, parce
connaît
que
ça.
C'est une chose de savoir cuisiner, c'est autre chose de savoir gérer.
Et lui, c'est. Et donc, mais c'est des moments, et c'est un peu. Tout se regroupe. T'es champion de tennis, t'as un bon restaurant, t'es acteur, c'est la même chose, c'est la même direction, c'est la même intensité, c'est la même aussi organisation d'avoir une bonne équipe. J'en parlais avec Pierre encore hier soir, il a ses enfants, il a sa femme, c'est tellement beau de pouvoir travailler. Puis les enfants, tu les vois, les deux, c'est deux petits Pierre, quoi. Et ils sont pareils, ils sont gentils, généreux, ils ont le sourire, ils aiment ce qu'ils font. C'est extraordinaire, toi.
Bah.
Mais de toute façon, la restauration, je vais te dire, si t'aimes pas, faut pas le faire. Hein.
Voilà. Mais je pense que c'est... On disait tout à l'heure, tu me dis que tu étais passionné de tennis et que c'est ça que tu voulais faire. Je pense que là aussi, tu peux pas devenir un sportif
bon
de haut niveau ou un bon cuisinier. Tu peux rien faire de bon si t'es pas passionné.
La passion est une chose primordiale, importante et qui te font vraiment aller de l'avant et qui est primordiale.
Ouais.
C'est... Regarde, une belle émission de radio... On le sent dans la voix. Moi, j'adore la radio pour ça. Tu vois, je travaille avec RTL.
La radio,
et la radio, je suis beaucoup plus séduit que la télévision. La télévision, tu peux toujours cacher. Tu vois, tu peux toujours maquiller. Tu peux toujours faire des mimiques. La radio, c'est la voix. La voix. On sent quand le
la
mec...
La voix, c'est ce qu'il y a à l'intérieur.
Hein. C'est quand tu vois, c'est grave. Quand tu as les émotions, des choses qui te ressortent. C'est tellement... Et puis, moi qui roule beaucoup, je fais 75 000 km par an en voiture... J'adore ça parce que je me rends dans un état hypnotique, tu vois, et ça me permet de réfléchir. Donc j'écoute beaucoup la radio, la musique, les émissions.
Ah,
les
moi
trucs.
Je fais ça avec mon footing.
Ouais. Moi j'ai du mal, tu sais pourquoi ? Parce que j'aime bien sortir mon corps.
Et, ouais.
Et écouter aussi. C'est tellement beau d'être dehors, t'as la nature.
C'est vrai.
C'est ça, c'est toi. Là je deviens un peu philosophe. Mais...
Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Encore. Parce que quand on parle avec Henri Lecomte, on se dit le type, il a quand même déjà pas mal de choses.
J'ai une vie extraordinaire qui s'agrandit et qui grossit et qui la passion tous les jours. Je rencontre des gens exceptionnels. Ici, j'arrive à Monaco, j'étais pas retourné depuis deux ans. Il y a toujours une relation d'amour parce que c'est un endroit et c'est le plus beau tournoi du monde après les tournois du Grand Chelem. Et ça, faut le défendre. Et il faut, j'en parlais encore avec Monseigneur hier, il faut le défendre et il faut qu'il soit encore plus mis en avant pour qu'il soit encore plus respecté. Parce ouais. que le monde d'aujourd'hui n'est pas simple.
C'est clair. Dans le tennis plus.
Dans le tennis, c'est pas parce qu'on a quelque chose que c'est acquis. Faire très très attention. Je suis arrivé ici, j'ai rencontré Valérie et tout son staff, qui ont été adorables ici au Métropole. Ça me fait quelque chose parce que moi j'y suis allé, je suis venu ici il y a fort longtemps et ça a toujours été un hôtel un peu cosy, où tu te sens bien, pas du tout ostentatoire, où tu es t'es à la maison. C'est un peu sombre, tout le monde se cache, se cherche un peu. Et ça, c'est beau. Et ma vie que j'ai aujourd'hui, elle est extraordinaire. Le fait d'avoir fait ce livre me permet d'aller voir aussi les gens. Je passe, tu vois, de Monaco et après-demain, je suis à Boulogne-sur-Mer. Tu vois ? Et c'est fantastique.
C'est toujours au bord de l'eau ?
Toujours au bord de l'eau. Et c'est fantastique. Moi, je suis du Nord. Je suis né dans le Nord. Et je vais pour la Billie Jean King Cup, parce que la France joue l'Angleterre. Et je vais encore faire une tournée pour mon livre. Après, je repars. Je vais aller du côté de Lyon, Saint-Étienne. Pas comme un gitan, tu vois, qui va un petit peu partout, et j'adore. Mais j'aime bien les rétanos, j'aime bien. Je connais ça, hein, j'ai vécu un peu en Camargue, quand même. Mais ma vie, aujourd'hui, je suis tellement content, tellement heureux, et surtout de pouvoir faire, tu vois, plaisir aux gens, de prendre le temps. Et puis on est là, quoi. Voilà. Continue.
Et on se donne rendez-vous dans un an, alors ?
Ah oui, mais quand tu veux, moi je reviens quand tu veux, tu m'invites quand tu veux, j'adore.
Ah, tant mieux. Ah eh bien, merci. Alors, merci Henri, merci de ton temps, merci d'avoir partagé avec nous tous ces mots. Et donc, je rappelle que Balneuve est dans toutes les bonnes librairies.
Une bonne librairie, édition Marabout.
Édition Marabout, préface de Jean-Paul Loth.
Et il y a des belles anecdotes.
Et il y a des belles anecdotes.
Donc n'hésitez pas, puis c'est sympa à lire, ça se lit rapidement. Il n'est pas trop gros le livre, c'est ça qui est bien. C'est pas un pavé.
Moi je pars pour New York là, parce que je vais aller travailler, et je vais le prendre avec moi, je vais le lire.
Et tu vas voir, et après tu m'appelles et tu me dis ce que tu en penses.
Exactement. Voilà. Merci Henri.
Merci à toi.
À bientôt.
Au revoir.
Merci.